Hors champ, le podcast cinéma de l'EJT.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Hors champ, le podcast des cinéphiles de l'EJT. Cette semaine est dédiée aux amoureux des bêtes, puisque nous parlerons des animaux au cinéma. Anaïs et Charlotte nous parleront du film Le règne animal, qui les a transportés dans une forêt où vivent des créatures mi-hommes, mi-bestiales. Puis Déborah plongera dans les profondeurs de l'océan pour nous raconter l'histoire fantastique et émouvante d'une pieuvre et d'un biologiste marin tiré d'un documentaire Netflix. On remontera ensuite à la surface pour s'aventurer en forêt avec Lucas, qui nous parlera de la scène mythique de l'attaque de l'ours dans The Revenant. Mais n'ayez crainte, ses griffes acérées ne vous atteindront pas. Nous poursuivrons avec Margot, qui nous interroge sur une question importante, celle de la législation en matière de tournage animalier. Pour finir, Audrey clôturera cet épisode avec les sorties de la semaine. Les nouveautés sont au rendez-vous, alors installez-vous bien confortablement, on débute avec la critique de la semaine. Anaïs et Charlotte, vous avez toutes les deux vu Le règne animal. Dans ce film, on découvre un monde en mutation, où certains humains se transforment en animaux. Ce sont des hybrides appelés bestioles. Alors que les humains et les bestioles tentent de cohabiter, on suit un père et son fils, directement frappés par le phénomène. Les critiques sont plutôt positives dans la presse. Les filles, vous en avez pensé quoi ?
Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la colorimétrie des images. On a des séquences claires et lumineuses, je dirais même limpides. C'est agréable à regarder. Ça lui donne vraiment une esthétique épurée qui donne du peps au film, qui lui pourtant n'est pas simple du tout à comprendre. On a des gros plans sur les visages des personnages. C'est leurs émotions qui s'affichent sur grand écran et qui nous percutent. On peut s'imaginer ce qu'ils pensent. Les alternances des plans entre le père et le fils créent la distance émotionnelle entre eux, l'incompréhension qui règne dans leur relation.
Je suis d'accord. Pour moi, c'est même le point fort. Les scènes sont très belles, la couleur et la symétrie de certains plans apportent même de la profondeur au film. On se sent transporté avec l'alternance des scènes claires et dans les tonalités vertes qui rappellent la nature au centre du film et les scènes sombres liées aux attaques. Plusieurs scènes m'ont transmis une réelle émotion, notamment à travers leur ambiance et leur esthétisme. La scène d'ouverture m'a directement plongé dedans. Une autre scène m'a fait vibrer à travers la bande-son et le plan du père et son fils qui hurlent à plein poumon dans la voiture. Mais c'est aussi le jeu d'acteur qui m'a donné toutes ces émotions.
Carrément, Anaïs. Cette scène m'a aussi fait frissonner. Il y en a une autre qui m'a bouleversée. C'est à la fin du film, quand Émile se sauve dans la nature poussé par son père. Le jeu des acteurs est vraiment à souligner. Surtout celui du fils Émile joué par Paul Kreischer, qui donne toute son âme et sa puissance dans les périples qu'il vit. J'ai même versé quelques larmes dans le film.
Totalement. Moi, je connaissais pas du tout Paul Kreischer avant le film et j'étais bluffée par son jeu d'acteur. Celui qui m'a un peu inquiétée au départ, c'est Romain Duris. J'ai eu un peu peur que l'on tombe dans le personnage cliché, écolo...
Ah, pour moi, Romain Duris a toute sa place dans le film. Il a bien été choisi. Son personnage, si on dit un peu caricaturalement, c'est l'archétype du père protecteur, un peu largué. Il essaie d'être fort et sans émotion. Et j'ai bien aimé le changement de ton qu'il a eu à la fin du film. On sent que son personnage a eu un réel déclic.
Eh bien, effectivement, on peut sentir que ce film vous habite, les filles. Et alors, du côté des effets spéciaux, parce qu'on y voit des humains qui mutent en animaux avec une forêt peuplée de créatures étranges. Est-ce qu'on y croit vraiment ?
Alors, on a affaire à des animaux extraordinaires, gigantesques, qui sont très bien pensés. Les effets spéciaux sont bons et réalistes, on y croit à ces animaux. On pourrait presque les imaginer dans nos forêts.
Totalement d'accord. Les effets spéciaux, les travaux de maquillage sont vraiment à souligner, on y croit à 100%. Par contre, là où toi et moi on n'est pas d'accord, c'est sur l'histoire.
Eh oui ! On peut pas être d'accord sur tout, c'est le but du débat. Pour moi, c'est là où le film est intéressant. C'est une bonne science-fiction à la française. L'insertion des animaux fantastiques dans notre monde paraît presque probable. Une autre chose que j'ai aimée, c'est l'évolution physique et relationnelle des acteurs. La relation entre le père et le fils change tout au long du film. Leur relation parle de comment une famille vit la maladie de la mère. Cette maladie pose même question au sein de la société. Mais est-ce vraiment une maladie ? Est-ce que l'on doit vivre avec ou bien lutter ? C'est la question que je me suis posée tout le film. Pour moi, les animaux et la science-fiction sont un prétexte pour parler des mutations d'une société et de l'acceptation des autres.
Je suis d'accord, j'ai bien aimé le film en général, avec l'esthétisme et la réalité des effets spéciaux, on croit à toutes ces évolutions. Seulement, pour moi, le point noir du film repose sur son histoire. Même si je suis rentrée à fond dedans, j'aurais aimé avoir un minimum de contexte. On ne sait pas comment les bestioles sont apparues, ni comment cela a affecté la famille. Pendant tout le film, je suis restée dans un flou, me demandant dans quel univers cela se passait et à quoi tout cela était dû. On reconnaît que c'est dans un futur proche, en France, mais on parvient pas vraiment à expliquer le phénomène. J'ai aussi trouvé l'histoire d'amour superflue. Elle n'apporte pas grand-chose à l'histoire, et je ne sais pas vraiment si c'était nécessaire. Et puis même si j'ai apprécié le film en général, j'ai ressenti quelques longueurs. On ne sait pas où l'histoire se se dirige, ce qui crée parfois des instants un peu plus lents.
Justement, ces moments de lenteur, moi je les ai perçus d'une toute autre manière. Ils laissent une grande place à notre imagination. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le réalisateur ne nous donne pas toutes les clés pour comprendre le film. Et chacun peut laisser libre cours à son imagination, et ça, j'adore.
Eh bien les filles, j'ai adoré ce débat, et il a d'ailleurs éveillé ma curiosité. Merci pour cette critique de la semaine, et maintenant on prend nos palmes et notre bouteille pour rejoindre Déborah et sa recommandation de la semaine. Et je vous laisse en compagnie de notre chroniqueuse Déborah, amoureuse des animaux. Elle va vous parler du documentaire La sagesse de la pieuvre, disponible sur Netflix. Il raconte l'histoire d'amitié entre un homme et une pieuvre, récompensée d'ailleurs par l'Oscar du meilleur documentaire en 2021.
Aussi insolite que cela puisse paraître, ce documentaire n'est pas une fiction. Le réalisateur Craig Foster nous emporte avec lui dans son aventure singulière. Enfant de l'océan, il a grandi et plongé dans les poumons de la planète à la pointe de l'Afrique.
Et ces poumons de la planète font référence aux forêts de kelp, des forêts sous-marines. Elles font partie des écosystèmes les plus riches, les plus productifs et diversifiés de la planète.
À l'âge adulte, Craig Foster se détourne de cet environnement pour construire sa vie professionnelle. Bourreau du travail, le réalisateur s'essouffle au point de ne plus supporter la vue d'une caméra. Assez problématique quand il s'agit de son métier. Pour se sauver, il décide un retour aux sources et retrouve son océan natal. Prenez une grande inspiration, Craig Foster nous embarque dans les profondeurs glaciales, sans bouteille ni combinaison bien sûr, tel un amphibien. Peu à peu, la vie sous-marine l'inspire et lui redonne l'envie de manier la caméra.
Une rencontre surprenante donc, qui va bouleverser la vie de Craig Foster. Des indices pour les plus aguerris, sa durée de vie est d'1 an, elle dispose de 3 cœurs, son sang est bleu et elle a 8 bras.
Sans grande surprise, il s'agit d'une pieuvre. Craig Foster est tout à coup animé d'une folle intuition et va se rendre tous les jours au même endroit pendant 1 an pour l'observer. My Octopus Teacher, ma prof pieuvre, est le titre original de ce documentaire. Et oui, le réalisateur est convaincu que ce céphalopode peut lui apprendre quelque chose. S'apprête à sourire, et pourtant.
L'océan et cette rencontre avec une pieuvre sont finalement une thérapie pour Craig Foster, non ?
La pieuvre tente de survivre sous l'océan, l'homme sur la terre. Pour reprendre ses mots, il est tombé amoureux de cet animal, mais aussi de cette nature sauvage extraordinaire. Petit à petit, ces deux êtres s'apprivoisent mutuellement et leurs relations deviennent déconcertantes. Intelligente, curieuse, dotée de pouvoirs de régénération et un peu transformiste sur les bords. Croyez-moi, vous allez vous attacher à ce mollusque, au point que les choix de Craig Foster peuvent parfois être mal vécus par les spectateurs.
Ça a l'air fascinant, Déborah. C'est une amitié extraordinaire entre l'homme et l'animal, résumée dans un documentaire d'1h30 finalement.
1h30 que l'on ne voit pas passer. Les images sont à couper le souffle, les musiques apaisantes. Tout en poésie, le réalisateur nous emporte avec lui sous l'océan. Mais pas de quoi s'endormir, ce documentaire nous tient en haleine, car notre ami la pieuvre nous fait quelques frayeurs. Attention, avis aux plus sensibles, prévoyez une boîte de mouchoirs à proximité. Quoi qu'il en soit, amoureux des animaux ou néophytes, tout le monde se prend la même claque.
Eh bien, j'espère qu'on se prendra la même claque aussi. Merci Déborah pour cette fabuleuse histoire qui met en lumière cet animal dont l'intelligence nous intrigue tant. Et maintenant, c'est l'heure de la scène culte avec Lucas.
La scène mythique.
Je vais vous parler de la scène mythique de l'attaque de l'ours dans le film The Revenant, réalisé par Alejandro González Iñárritu et sorti en 2015. Le rôle principal du trappeur Hugh Glass est interprété par Leonardo DiCaprio. Et pour l'anecdote, c'est grâce à ce film qu'il a remporté son seul et unique Oscar dans la catégorie du meilleur acteur. Au niveau de l'intrigue, l'histoire se déroule aux États-Unis au début des années 1820. Un groupe de trappeurs mené par le capitaine Andrew Henry s'aventure dans les profondes forêts et paysages montagneux du Dakota du Sud. L'expédition consiste à remonter la vallée de la Grand River jusqu'à la vallée de Yellowstone. Parmi les trappeurs figurent Hugh Glass et son fils Hawk. Tout se passe comme sur des roulettes jusqu'au jour où le groupe subit une attaque de la tribu amérindienne des Arikaras. Les pertes humaines sont lourdes, mais Hugh, Hawk et quelques autres membres de l'expédition s'en sortent presque indemnes. Le lendemain de l'attaque, Hugh décide d'aller chasser le bétail seul aux alentours du campement. Et
c'est là que tout déraille, Lucas.
Oui, au moment précis où Hugh voit deux oursons déambulant tranquillement entre les grands sapins de la forêt, cela lui met l'eau à la bouche, sauf que le trappeur ne voit pas la maman ours qui est bel et bien dans les parages et qui, sans crier gare, s'en prend violemment à lui. S'en suivent de longues minutes de souffrance pour Hugh. D'abord, le trappeur riposte, puis sous les coups de griffes de l'animal, il change de stratégie et se met à faire le mort. Il s'allonge immobile sur le ventre, la grosse bête le renifle et se permet même de lui écraser la tête avec sa sa patte. Puis elle s'en va auprès de ses oursons. Le trappeur se retourne, non sans mal, et parvient à s'emparer de son fusil. Et il attend que la maman ours s'approche une nouvelle fois, la met en joue et lui tire une balle dans le cou. À ce moment-là, l'animal sort de ses gonds, saute sur Hugh et le fait virevolter avec une violence inouïe. Puis ses griffes acérées lacèrent la peau du dos de l'homme, mais dans l'action, le trappeur parvient à atteindre son couteau et assène plusieurs coups à l'animal. Les deux combattants finissent par dégringoler dans une fosse, la bête succombe finalement à ses blessures et le brave Hugh, comme par miracle, parvient à survivre.
Mais quelle bataille ! Mais elle est pas un peu irréelle, cette histoire ?
Eh bien, détrompe-toi, puisque le film s'inspire d'une histoire vraie. Et oui, le trappeur Hugh Glass a bien existé, et il s'est réellement fait attaquer par une maman ours, exactement comme dans le film. D'ailleurs, à l'issue du combat, il était tout cassé de partout. Les os de ses côtes étaient même saillants, tellement que la chair de son dos était lacérée. Et d'ailleurs, pour ne pas que ses plaies s'infectent, il a placé sous son dos une souche d'arbre en train de pourrir afin que les asticots rongent la chair morte. C'est assez répugnant, mais drôlement efficace, car le trappeur a survécu à cette aventure. Mais ne vous méprenez pas, la morale de l'histoire n'est surtout pas qu'il suffit de survivre à une attaque d'ours pour que DiCaprio interprète votre rôle au cinéma.
Depuis 2001, la Palme d'Or au Festival de Cannes récompense les meilleures performances canines. Cette année, c'est Messi, le border collie dans Anatomie d'une chute, qui s'est vu remettre le prix. Margot, les animaux ont un succès fou au cinéma, mais qu'en est-il de leur protection lors des tournages ?
Eh bien, la loi est assez silencieuse sur le sujet. C'est en faisant ce constat de vide juridique que Corinne Le Sen a décidé de se tourner vers cette problématique. Docteur vétérinaire en exercice, elle a publié de nombreux travaux sur la protection des animaux sur les tournages de films et publicitaires. Pour Orchamps, elle nous explique qu'il est nécessaire d'avoir des vétérinaires sur les plateaux car ils ont un œil d'expert sur des choses que des réalisateurs ne verraient pas forcément.
En tant qu'expert, quand je vois un chaton qui n'est pas sevré, qui est sorti de sa mère et qui est sur un plateau toute la journée et qui ne fait que dormir et qu'en peut plus, je sais que c'est ce qu'on appelle de la maltraitance classique, c'est-à-dire qu'on lui fait subir quelque chose qui n'est pas conforme aux impératifs biologiques de son espèce. Je me suis rendu compte de la nécessité d'avoir une tierce personne qui soit ailleurs et indépendante de ce qui se passe sur un plateau de tournage, qui connaissent très très bien les animaux et pas juste un animal ou une espèce, voilà, qui sait ce qu'est aujourd'hui la réglementation en protection animale et qui peut intervenir en disant là, non, stop.
Et cette intervention du vétérinaire, elle peut se faire tout au long du processus de création d'un film, à commencer par l'écriture du scénario.
La production, le réalisateur vous envoie déjà sur ses premiers scripts, disons, des documents avec des scènes, et vous lisez. C'est assez confidentiel, mais vous lisez ça et vous voyez déjà à quel endroit ils ont besoin d'animaux et dans quelles conditions ils veulent le mettre, qu'est-ce qu'ils veulent lui faire faire. Donc déjà, je vois si l'environnement dans lequel on a mis la scène est conforme à l'espèce, puisque je vois à un moment donné si on ne va pas le mettre en état de stress, si on ne va pas le mettre en danger, si on ne va pas lui imposer quelque chose qui n'est pas conforme à sa position physiologique. Donc je fais le point sur le bien-être.
Après le scénario, il y a le casting, où le vétérinaire vérifie si l'animal choisi pour le film est préparé, physiquement et psychologiquement, à la scène qu'on veut lui faire faire. Et évidemment, pendant le tournage, le vétérinaire peut vérifier si le plateau n'est pas trop bruyant, s'il ne fait pas trop chaud, en somme, vérifier constamment si l'animal va bien. L'idéal pour Corinne Le Sen, c'est que le vétérinaire soit présent dans toutes ces étapes du film.
Donc ça, c'est en théorie, mais dans la pratique, rien n'oblige les réalisateurs à le faire.
Et non, car même si le réalisateur est responsable pénalement des cas de maltraitance sur son tournage, rien ne l'oblige dans la réglementation à recourir au service des vétérinaires. D'ailleurs, seulement une minorité d'entre eux le font, pour une question de moyens notamment, ce que regrette Corinne Le Sen.
Simplement, c'est du budget en plus. Souvent, les films sont faits sur des budgets serrés. Et que même si un scénario, il est déjà un peu préparé au départ, on se dit on voudrait le chat, le chien, la vache de telle sorte, à tel moment, tel style, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, si vous voulez, qui se donnent les moyens. Ils ne se sont pas donné les obligations de moyens. Eux, ils veulent des obligations de résultats. Et les obligations de moyens, c'est de mettre ces équipes-là autour pour préparer les conditions, la mise en scène, etc. Et trouver l'animal qui va pouvoir supporter ça. Mais si aujourd'hui, on pouvait arriver jusqu'à une réglementation ou une obligation, après, on peut ne pas être dans la réglementation dure, mais au moins une obligation de dire, voilà, réalisateur, quand vous mettez les animaux en scène, Faites venir cet équipier comme vous faites venir un chef décorateur, comme vous faites venir, vous voyez, voilà, c'est ça, ça fait partie du job. Ils ont une obligation de sécuriser.
Si Corinne Le Seine insiste sur la nécessité de ces vétérinaires, c'est car elle recense encore aujourd'hui de nombreux cas de maltraitance, classiques ou plus graves sur les tournages. Elle note quand même un intérêt grandissant pour la question ces dernières années, surtout auprès des jeunes générations de réalisateurs et réalisatrices. Et peut-être même qu'un jour la fonction vétérinaire conseil apparaîtra dans tous les génériques de films.
On l'espère en tout cas. Merci Margot et merci à Corinne Le Serre d'avoir répondu à nos questions. Et on quitte nos très chers amis les animaux pour Audrey et son agenda de la semaine.
Préparez votre agenda, c'est les sorties de la semaine.
Et en cette fin de semaine, si vous voulez une soirée sympa, Audrey vous a préparé les dernières sorties au cinéma ou depuis chez soi.
Tout à fait, Océane. Noël approche pas à pas et les soirées cocooning aussi. Cette semaine au cinéma, que ce soit pour les petits ou les grands, vient de sortir l'incroyable Noël de Shaun le Mouton. Ce film familial nous plonge dans l'histoire de Shaun et son troupeau d'amis à qui il arrive quelques aventures lors des préparatifs de Noël. Prêt pour une course-poursuite en traîneau ? À vos marques, prêts, moutonnés.
En attendant cet esprit de Noël, Marion Cotillard revient dans un nouveau film.
Absolument, Marion Cotillard est à l'affiche de Little Girl Blue qui vient de sortir ce 15 novembre. Après la mort de sa mère, la protagoniste découvre des milliers de photos et vidéos. Elle mène donc une enquête pour résoudre l'énigme de sa disparition entre documentaire et fiction. Elle reflète l'histoire de la réalisatrice.
Ce film a l'air puissant, Audrey. Et si on souhaite rester au chaud chez soi ?
Depuis son canapé ou pour organiser une soirée film avec ses amis, ce 17 novembre sort la 6e et dernière saison de The Crown. La célèbre série de Peter Morgan est un véritable succès sur Netflix. Si vous êtes fan de la famille royale britannique ou simplement intrigué par leurs histoires, la série est faite pour vous. Les 4 premiers épisodes seront disponibles dès maintenant et les 4 ultimes sortiront le 14 décembre. Le dernier chapitre de The Crown devrait suivre la famille royale britannique dans les années 90 au début des années 2000, couvrant ainsi la fin du mariage du prince Charles et de la princesse Diana, mais aussi l'accident qui lui a coûté la vie en 1997.
Et enfin, le soleil devrait être au rendez-vous ce week-end.
Et oui, Océane, et pour l'occasion, vous pouvez aller au festival de la BD. Il s'installe à Coulommiers, à deux pas de Toulouse ce week-end, laissant place à des expositions, spectacles et rencontres avec les auteurs. L'année dernière, plus de 18 000 visiteurs ont fait le déplacement.
Merci Audrey, on ne risque pas de s'ennuyer avec toutes ces activités. J'espère que cet épisode vous a plu. On remercie Margot à la régie et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Hors Champ.